les versets 31 à 34. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Je lirai maintenant dans Jean, au chapitre 14, les versets 15 à 21 et le verset 11 du chapitre 15. « Si vous m'aimez, » c'est Jésus qui parle à ses disciples, « si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Voilà la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui et la suite immédiate de plusieurs questions posées par Jésus à ses disciples et inversement. Une longue discussion s'était engagée, c'était lors des dernières recommandations à ses amis, lors du dernier repas. Et on a la réponse de Jésus à Thomas qui demandait au maître de lui indiquer le chemin vers lequel Jésus va bientôt partir. Et là, la réponse de Jésus tombe alors dans leurs oreilles attentives. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Une question universelle, bien sûr. Comme une autre qui est posée juste après par Philippe, « Montre-nous le Père. » Et dans la suite du passage, qui nous concerne donc aujourd'hui, Jésus continue à répondre à cette question que tout homme se pose un jour ou l'autre. « Comment arrive-t-on à Dieu ? » Et quel doit être notre rapport à lui ? Aujourd'hui, dans notre monde, cette question peut même prendre une forme plus radicale. Dieu existe-t-il ? Et s'il existe, comment peut-on entrer en communication avec lui ? Ou encore, peut-on vraiment connaître quelque chose de Dieu ? Et là, dans notre passage, après avoir traité de la réponse à ces questions, Jean met sur les lèvres de Jésus une parole pour ses disciples, une parole en deux volets, absolument parallèle, avec d'un côté un appel et de l'autre, une promesse. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc un appel, d'abord un appel à l'amour, comme une injonction finalement à réfléchir profondément en nous, en vérité, et à répondre à sa question, est-ce que tu m'aimes ? La question de l'amour pour Dieu est une question importante, mais bien sûr il ne faut pas comprendre cet amour comme un sentiment, comme une émotion pour lui, il ne s'agit pas de ça et on va y revenir. Et c'est étonnant d'ailleurs comme l'Écriture lit très souvent l'amour pour Dieu et l'obéissance à ses commandements. C'est presque comme si notre obéissance était une espèce d'étalon qui nous permettrait de jauger, de mesurer notre amour pour Dieu. Mais attention parce qu'on pourrait là facilement se tromper. On n'obéit pas aux commandements de Dieu pour pouvoir dire « Vois, Seigneur, comme je t'aime », ou pire, pour le montrer à ceux qui nous entourent, hein, regardez comme j'aime mon Dieu. Bien sûr que non. Il y a des chrétiens d'ailleurs qui ne parlent presque que d'obéissance. Très bien, c'est bien de vouloir obéir à Dieu en toutes choses, mais voilà, ce n'est pas la base de la foi. C'est la conséquence de l'amour. Au verset 15, il est dit, si on traduit juste, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Et non, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Vous saisissez la différence. On l'entend plus comme une promesse que comme un ordre qui serait donné aux disciples à ce moment-là. On l'entend comme ça. « Si vous m'aimez, alors vous garderez mes commandements. » Mais si on veut prouver qu'on aime Dieu en voulant garder ses commandements, là on met peut-être la charrue avant les bœufs. Et c'est très pénible, parce qu'il manque la joie. L'obéissance, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Lui obéir sans joie, c'est de toute façon certainement pas ce que Dieu attend de nous. Alors certes, je ne peux pas vraiment aimer Dieu sans obéir à sa parole, à ses commandements, mais je ne peux pas non plus vraiment obéir à Dieu sans l'aimer d'abord. Parce que ça deviendrait alors un fardeau, une obligation pénible, quelque chose de contraignant, de pesant, parce qu'on peut obéir à Dieu à contre-cœur, mais c'est lourd. Donc attention encore une fois à bien comprendre, mon obéissance ne démontre rien de mon amour pour Dieu. C'est même une obéissance qui peut être à la longue épuisante et remplie d'amertume si l'amour n'y est pas premier, si l'amour n'est pas le moteur de cette obéissance. Et bref, ce n'est pas parce que j'obéis au commandement de Dieu que je vais avoir de l'amour pour lui. J'obéis parce que je l'aime. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la parole qui est là. Encore une chose, d'ailleurs, sur cet appel à l'amour, c'est vrai que le plus grand commandement, Jésus le dit lui-même, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Mais encore faut-il connaître ce que la Bible dit à ce sujet, ce que c'est que d'aimer Dieu et son prochain. Parce que vous l'avez compris, dans la Bible, l'amour pour Dieu, ce n'est pas simplement une émotion particulière pour Dieu qui se révélerait un sentiment, voilà, une affection profonde qui se manifesterait surtout dans les grands moments de louange qu'on aurait peut-être tous ensemble. Et là, il n'y a pas de problème, on peut tous louer Dieu, lancer des cris de joie à Dieu, lever nos mains et chanter à pleine voix, ce qui nous ferait du bien, là, surtout sans notre organiste. Et c'est quelque chose qui est demandé dans la Bible. On peut très bien faire tout ça, mais on peut faire tout ça et puis sortir, et quelques minutes plus tard, désobéir au premier commandement que Dieu nous donne ici ou là. Enfin, c'est très facile pour nous d'être très dedans, dans cette espèce d'amour collectif qu'on aurait pour Dieu, sortir de là, de ce moment exaltant, et de passer à côté du premier commandement qui nous demanderait personnellement à chacun. Alors comprenez-moi bien, je ne suis pas du tout contre le fait de louer Dieu dans le culte, bien au contraire, la Bible nous invite à louer Dieu dans l'assemblée des justes et à lancer des cris de joie, mais ce n'est pas tout et ça ne suffit pas. La Bible est très claire, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alors parler d'amour, vouloir vivre dans l'amour, mais sans désirer servir, sans désirer obéir à Dieu, voilà aussi qui mène à une impasse. Même si par ailleurs je passe des heures à louer Dieu, des heures à faire du bien, des heures à faire des visites en prison, des heures à donner de mon temps ou de mon argent à l'église, peu importe. C'est vrai que l'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, il dit que de la foi, de l'espérance et de l'amour, la plus grande chose c'est l'amour. La plus grande des trois, c'est l'amour, mais ce n'est pas la seule. Certes, Augustin avait dit « aime et fais ce que tu veux ». Il voulait dire par là que si on aime vraiment Dieu et son prochain, on ne fera pas des choses qui ne sont pas bien. Il a raison dans ce sens, mais on peut mal le comprendre, parce qu'on peut toujours penser faire quelque chose de bien, qui va dans le sens de l'amour, et se tromper. L'amour, oui. Mais pas rien que l'amour ou pas une certaine compréhension de l'amour. Il faut que cet amour soit guidé, soit canalisé. Et c'est pourquoi Dieu nous demande aussi l'obéissance. En fait, on ne peut pas séparer les deux choses, surtout pas les opposer l'une à l'autre. C'est vrai qu'elles sont intimement liées dans la Bible. Et cette demande se fait promesse. Si vous m'aimez, alors vous garderez mes commandements. Mais voilà, la Bible est épaisse, il y a beaucoup de commandements. Honorez vos parents, soyez soumis les uns aux autres, aspirez aux dons spirituels, priez pour les malades, soyez en paix entre vous, soyez dans la joie, etc., etc. Alors, nous n'avons pas tous les mêmes facultés naturelles dans les mêmes domaines, nous n'avons pas non plus les mêmes problèmes dans les mêmes domaines, mais ce que nous avons, je pense, tous en commun, c'est que nous avons tous besoin d'apprendre. Apprendre à toujours mieux déjà discerner comment un commandement donné il y a des milliers d'années, à milieu de ma culture et de mon époque, doit être compris pour pouvoir faire sens et être appliqué aujourd'hui dans mon contexte. Saisir l'esprit de la loi, au-delà de la lettre, pour ne pas m'arrêter à la lettre. Vous voyez la différence ? Si je suis sur une autoroute, dans une Mercedes confortable, bien équipée, en bon état, cette autoroute est limitée à 130, je roule à 150, il n'y a personne sur cette autoroute, ça va. Je suis en centre-ville, la vitesse est limitée à 50, mais il y a une école au bout de la rue, je roule à 50, au niveau de la lettre, je suis OK. Et vous comprenez bien que je passe à côté de l'esprit, là, je deviens criminel pratiquement, je prends des risques. En roulant à cette vitesse-là dans une rue où il y a des enfants. La lettre et l'esprit. Et ce qu'il nous faut saisir, eh bien, ce n'est rien de moins que la pensée de Dieu sur ces mêmes lois, sur ces lois qui nous sont données. Qu'est-ce qu'il en pense lui ? Qu'est-ce qu'il en pense pour moi aujourd'hui ? C'est ça qu'il nous faut arriver à recevoir, l'esprit de la loi. Et non pas juste une simple application idiote de la lettre, qui bien souvent d'ailleurs n'a plus lieu d'être aujourd'hui. En tout cas, telle qu'elle est dite dans nos Bibles. Voilà, il y a quelque chose à faire. On voit bien, par exemple, déjà la manière dont Jésus, à son époque, comprend et applique le commandement du Shabbat, n'hésitant pas à toucher des personnes qui sont déclarées impures par la loi, à les relever, à les guérir, alors que pour ceux qui sont attachés à la lettre, c'est là un vrai scandale, quelque chose qui ne se fait pas, quelque chose qui viole la loi. Bon, Jésus est Jésus, mais nous, comment faire pour discerner l'esprit de la loi ? Et comment l'appliquer aujourd'hui dans l'obéissance ? Eh bien, après l'appel à l'amour, c'est là le deuxième volet de sa parole aux disciples, vraiment la promesse. Ainsi, Dieu nous demande d'obéir à sa volonté, à ses commandements, d'entrer dans ses projets, mais il ne nous laisse pas seuls pour réfléchir à tout ça, pour savoir comment. Il ne nous abandonne pas à notre propre recherche, à nos propres déductions. Il nous annonce son esprit pour nous aider à discerner ces choses. Son esprit pour nous aider à poser les bons gestes au bon moment, à dire la bonne parole aux bonnes personnes au bon moment. Non plus à partir d'une loi extérieure à nous, mais d'une loi, cette même loi, qui est inscrite dans nos cœurs et dans nos pensées. Oui, inscrite en nous de manière à ce que nous soyons amenés, par l'écoute régulière de la parole, par cette écoute intime de sa voix, à vivre ses commandements, mais sans nous en rendre compte, de manière naturelle. Pas à se dire, tiens, il faut que je plaise à Dieu, ou tiens, c'est écrit dans la Bible, il faut que je le mette en pratique, mais de le faire de manière naturelle, sans y penser. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous, et qu'il sera toujours en vous. Voilà la manière dont Jésus nous permet d'avancer dans nos vies aujourd'hui en posant les bons gestes au bon moment, en ayant les bonnes paroles au bon moment. Et c'est ça et rien d'autre, faire sa volonté, accomplir ses commandements. Et nous ne sommes pas seuls pour essayer de discerner et de comprendre, pour traduire ce que nous pouvons lire dans les Écritures en acte d'obéissance pour aujourd'hui. En acte d'obéissance dans nos propres contextes. Nous avons une promesse qui accompagne l'injonction d'aimer et d'obéir. C'est la promesse de l'esprit de vie et de vérité que nous pouvons réclamer au Père puisqu'il nous l'a promis. Et c'est ainsi et seulement ainsi que nous serons rendus capables d'aimer et d'obéir à ses commandements, de garder ses commandements. Vous savez, la Bible n'est pas très compliquée, en fait. Si parfois nous n'avons pas beaucoup de force, si c'est peut-être que nous n'avons pas beaucoup de joie en l'Éternel. Et si nous n'avons pas beaucoup de joie, c'est peut-être que nous essayons d'obéir sans aimer. Nous essayons d'obéir par nos propres forces. Et nous nous épuisons là-dedans. Mais Dieu, justement, veut nous donner l'esprit pour changer cet état de fait. Il veut nous aider à grandir dans ces deux éléments qui sont liés, l'amour et l'obéissance. Ces deux choses qui s'influencent l'une l'autre réciproquement, comme une synergie, et que nous sommes, vous et moi, incapables de créer nous-mêmes. Nous avons besoin d'aide. Nous avons juste besoin, en fait, de réaliser que nous avons besoin d'aide. Dieu agit en nous par le Saint-Esprit, mais nous devons avoir la volonté de lui demander de nous aider sur ce chemin de bénédiction. Jésus ne veut pas faire peser sur aucun de nous le fardeau de la loi, bien au contraire. Il veut rendre la loi plus légère en nous, et c'est sa révolution, c'est sa bonne nouvelle pour nous. Il nous dit cette bonne nouvelle, que cette loi, pour celui qui cherche à l'accomplir dans l'amour, est désormais inscrite par son esprit dans le cœur du croyant qui l'y invite. Et s'il nous annonce cette bonne nouvelle, c'est pour nous amener à la joie. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen.